je continue avec Wilhelm Busch et je donnerai quelques informations sur sa biographie, bien entendu. Je parlerai après de Max und Moritz. Je vous ai préparé quelques images, mais qui ne sont pas, contrairement à ce que nous avons vu de Töpfer et Christophe, enfin, des images de la bande dessinée, parce que je crois que Max und Moritz, c'est quand même une bande dessinée, c'est un ouvrage qui est très connu, puis en plus il y a l'exposition en haut, donc j'avais un petit peu eu envie de vous apporter autre chose. Donc pour commencer, donc vous voyez les dates de naissance, 1832, et puis vous avez un autoportrait de Wilhelm Busch, hein, puisque vous allez le voir à la suite dans sa biographie, son vrai objectif était de devenir peintre. Enfin, il voulait devenir peintre. Il est né dans un petit village qui s'appelle Wiedensheim.
C'est le prochain.
Ouais. Voilà. Donc là aussi, deux peintures de Busch, hein, enfin, qui représentent ce village qui l'a beaucoup inspiré à la suite, hein, où il est toujours revenu. Il était le premier de sept enfants. L'aîné de sept enfants et contrairement à Töpfer par exemple, pas d'artiste dans sa famille. Sa mère qui avait été mariée une première fois, qui avait eu trois enfants mais qui n'avait pas survécu, tenait une petite épicerie dans le village, enfin, pour survivre, et s'était mariée ensuite avec un commerçant, hein, et cette épicerie s'était développée, avait prospéré et avait apporté une certaine aisance à la famille Busch. Wilhelm Busch est repéré comme doué et il est envoyé à 9 ans auprès d'un oncle, le pasteur Georg Klein à Ebergötzen, hein, et ensuite Georg Klein est muté dans un autre endroit, il le suit. Et il parfait en quelque sorte son éducation auprès de cet oncle pasteur qui, bien entendu, est instruit, qui lui apprend les langues anciennes, la géographie, etc., et où il peut lire aussi un certain nombre de choses. À 16 ans, donc jeune, hein, enfin, pour nous aujourd'hui, enfin, c'est quand même relativement jeune, en 1848, il part à Hanovre et il intègre l'école polytechnique qui est une branche, enfin un département de l'université de Hanovre. Il est censé devenir ingénieur. Il commence des études d'ingénieur comme il est doué. Ses parents aimeraient bien qu'il ait un bon métier, et ingénieur paraît un bon métier. Alors il dit lui-même qu'il avait été effectivement très doué pour le dessin et pour les maths, enfin le reste c'était un petit peu moins grandiose. J'insiste sur la date de 1848, parce que vous savez, c'était la révolution en Allemagne, la bürgerliche Revolution, hein, en Allemagne, et surtout c'était un moment où on estime que la caricature était devenue réellement un instrument politique. Était vraiment utilisé comme instrument de subversion, comme instrument de politique dans un contexte de bouillonnement social, de problèmes sociaux. Alors, il quitte l'école polytechnique au grand dam de ses parents, qui ne sont pas très heureux. Il ne reste pas très très longtemps parce que, bon, définitivement, il veut choisir la voie artistique, il veut devenir peintre. Et dans un premier temps, il s'inscrit aux Beaux-Arts de Düsseldorf. Il suit l'enseignement de cette académie pendant une petite année. Hein. Mais il juge effectivement que c'est un enseignement extrêmement académique. Enfin, il existe des dessins de Busch, enfin des nus par exemple, qui effectivement sont vraiment, enfin, très académiques. Enfin, il y a un enseignement qui ne lui plaît pas du tout. Et du coup, il part à Anvers commence à s'instruire et à travailler à Anvers. Et il découvre surtout la peinture flamande du XVIIe siècle. Voilà, alors je vous ai apporter quelques images. Donc Vermeer, bien sûr, mais enfin deux autres peintres qui sont moins connus. Qu'est-ce qu'il a trouvé de si intéressant par rapport effectivement à cette peinture académique en fait, qu'il connaissait à Düsseldorf? C'était surtout ces scènes de la vie quotidienne. Ce qui l'avait intéressé, c'est que là, il y avait des peintures qui représentaient, ben, vous avez vu, quelqu'un qui écrit une lettre, une dame avec sa servante, etc. Et ici, un atelier de souffleur de verre. Donc, ce qui l'a vraiment intéressé là-dedans, c'est de représenter les gens dans leur quotidien, hein, de ne pas, contrairement à ce qu'on lui avait appris à l'académie, c'est-à-dire la peinture historique et tout cela. Alors, autre influence aussi, donc ça c'est la peinture, oui, la peinture allemande, la peinture de genre allemande, comme par exemple Karl Spitzweg, hein, enfin, que vous connaissez peut-être, qui aujourd'hui effectivement n'a plus du tout la cote, enfin, c'est vraiment considéré comme une peinture complètement dépassée, c'est pas du tout intéressant, etc. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que si vous regardez le personnage enfin, qui est en train d'arroser ses fleurs, hein, vous voyez quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai mis ça en perspective. Ça, c'est l'image suivante avec un extrait de Max und Moritz. Et si vous regardez bien, enfin, ce personnage, enfin, c'est presque une copie du personnage de. Que nous avions précédemment, c'est-à-dire vous avez à la fois die Mütze, hein, die schwarze Mütze, vous avez le physique du personnage, les lunettes, cette espèce de redingote ou robe de chambre, enfin on ne sait pas très bien, marron. On a l'impression que globalement, ce bec là de bouche, enfin, il vient juste d'arroser ses fleurs et puis là il se pose pour se reposer de cet effort et il fume sa pipe. Il commence à cette époque aussi à collectionner, enfin, c'est un petit peu dans l'air du temps, enfin, il collectionne des contes, des chansons populaires, etc., qu'il essaie de publier, mais enfin, il n'a pas beaucoup de succès avec tout cela. Il part à Munich en 1854. Là encore, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts et surtout, là, il commence vraiment en tant que caricaturiste. Enfin, ce sont les premières caricatures, ce n'est pas encore la BD. Hein. Et il collabore à un journal satirique qui s'appelle Die Fliegenden Blätter, les feuilles volantes, qui fonctionne sur le modèle du punch anglais et de charivari français. Et je vous ai apporté donc deux images ici. Ben, vous avez Daumier, vous connaissez tous enfin, cette approche de Louis-Philippe, hein, enfin la poire, hein, enfin, Louis-Philippe en tant que poire. Et avec un petit peu de coloration en dessus, hein, vous avez bouche, concombre, poire et radis. Hein, et ça s'appelle Der große Mann, hein, le grand homme. Hein, donc il fait ce genre de caricature. Pour vous montrer un petit peu le trait, vous avez ici de bouche der alte Fritz, hein, et vous voyez aussi enfin, la manière de dessiner, entre autres avec une très grande économie des moyens, enfin, ce sont des traits très précis, hein, et pour arriver effectivement à ce portrait tout à fait ressemblant, hein, de ce roi de Prusse. Alors, toujours dans cette histoire de caricature, je ne sais pas si. Alors, ce n'est pas une caricature, ça c'est déjà tiré de BD, si vous voulez, de Bouche. Mais je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son œuvre. Enfin, très souvent, on voit des gens de dos. Alors, je ne parle pas forcément Max von Moritz, mais il dessine très souvent les personnages de dos, ou enfin des parties du personnage de dos. Et là, par exemple, ça, c'est la trilogie Knopf. Hein, Et là, c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une série. Alors moi, je n'ai pris qu'une seule image, mais il y a toute une série d'images, hein, où finalement c'est le derrière qui parle, hein, ou le fond de pantalon, hein, qui parle. Hein, enfin, d'après les différents mouvements, donc il est renfrogné, il est content, il est dubitatif, etc. Donc, je trouve que c'est aussi assez original si on pense à quelle époque quand même. Tout cela a été dessiné. Et non, je vais peut-être le montrer après. Alors, juste pour finir sur sa biographie, donc 1865, Max und Moritz, hein, donc très grand succès, énorme succès, et puis qui va lui permettre effectivement de vivre de manière très aisée à la suite. En 68, 1868, il part à Francfort. Il suit son frère qui est dans une famille d'industriels de Francfort, les Kessler, qui vont devenir ses mécènes, notamment Madame Kessler. Entre 68 et 70, il perd ses parents et en 75, il retourne dans son village natal. Donc, il retourne à Wiedensal. Hein. Et il finit en 1808, hein, sa vie à Mechtshausen auprès de son neveu qui est également pasteur. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que Busch est un artiste vraiment prolifique, enfin qui a beaucoup de facettes. Enfin, il est peintre, apprécié par exemple par Paul Klee, hein, il est caricaturiste, poète, auteur de pièces de théâtre, de singspiel, hein, dessinateur, et il est considéré comme le père de la bande dessinée. Il ne s'est jamais marié, hein, mais il a toujours vécu très, très proche de sa famille. C'était quelqu'un d'assez réservé, enfin il était bon vivant, mais enfin en même temps il était assez réservé. Il a laissé deux écrits autobiographiques, Von mir über mich et Was mich betrifft. Et puis on considère aussi que parmi ces dernières BD, enfin si on peut rapidement dire BD, Der Maler Klecksel, hein, et Baldwin Behlam, hein, Der verhinderte Dichter, le poète empêché. Il y a quand même beaucoup de sa vie, hein, dans ces deux BD. Hein. Enfin, il retrace par exemple pour le Maler Klecksel justement ses enseignements aux Beaux-Arts, aux différentes académies des Beaux-Arts, etc. Et puis Der verhinderte Dichter, eh bien, vous voyez bien le lien. Vers la fin de sa vie, on a envisagé de lui donner un genre d'équivalent de l'ordre du mérite, mais il semblerait que ça avait été rayé par le souverain d'un trait de plume qui disait qu'il n'était pas digne d'une distinction quand on regardait tout ce qu'il avait fait. Donc visiblement, lui, il n'appréciait pas la BD, hein, pas du tout. Il n'a pas trouvé que c'était intéressant. Peut-être pour finir cette première partie sur Max und Moritz, hein, publié chez Caspar Braun, hein, en 1865. Je pense que vous connaissez Max und Moritz, hein, sans doute, hein, les mauvais tours de garnement. Certains, j'ai.
Images aussi.
Voilà. Certains, enfin, j'ai. Dans une biographie, on parle même de délinquants juvéniles, hein, quand on regarde de près. Hein. Et vous connaissez tous cette ouverture, Ach, was kann man oft vom Bösen, Buben hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Texte et images, alors pour Busch, c'est indissociable. Enfin, pour Max und Moritz, on ne peut pas dissocier. Hein, et je pense que même pour ces autres, même si les dessins sont très expressifs, je pense qu'on ne peut pas du tout faire abstraction du texte. Les influences pour Max und Moritz, ça va changer plus tard, ce sont les personnages de son village, hein, les figures de son village, hein, l'instituteur, l'organisme, la veuve Bolte, hein, enfin, le meunier, le paysan, etc. Peut-être Busch lui-même, hein, avec un de ses amis d'enfance. Enfin, on a beaucoup supposé que Max und Moritz était Busch plus un de ses amis d'enfance. Et il raconte donc dans Max und Moritz des histoires du quotidien sont dans la ligne de cette influence de la peinture flamande, enfin, qu'on avait mentionnée au départ. Alors, Ce que j'aimerais souligner pour finir sur maintenant, c'est une ambiguïté, à mon avis, en fait, qui concerne aussi, je trouve, le titre qui avait été mentionné tout à l'heure, hein, de Heinrich Hoffmann. Hein. C'est-à-dire, on parle toujours de cette histoire de « ce sont des histoires pour les enfants ». Ce sont des histoires pour les enfants, enfin moi-même j'ai lu ça enfant, d'autres ont lu ça enfant, etc. Et on est aussi beaucoup parti pendant très longtemps sur le principe que c'était très didactique du style les enfants vont apprendre les bonnes manières, etc. Donc je trouve le Pieta bien sûr, enfin, il faut manger sa soupe, il faut se tenir correctement à table, il ne faut pas jouer avec le feu, etc. Mais en même temps, ce sont quand même aussi des messages relativement clairs qui s'adressent aux adultes, puisqu'il y a une mise en relief et une certaine critique d'une certaine éducation, enfin une éducation qui est quand même assez violente. Et si vous pensez, à la fin, par exemple, de Max und Moritz, hein, qui finissent broyés par... non, c'est un petit peu plus loin. Voilà. Qui finissent broyés par la meule, enfin, sous forme de, je ne sais pas comment dire, croquettes, ou je ne sais pas trop quoi. ce sont quand même des histoires très cruelles et très violentes. Hein. Et le sort qui est réservé à Max und Moritz est un sort quand même aussi assez violent et pas très sympathique. Ce sont pas finalement vraiment des comics, hein, ou des fanes comme on disait aux États-Unis au moment où la BD est née, mais ce sont des histoires effectivement un petit peu à l'instar des contes de Grimm, hein, avant que Disney s'en empare et édulcore enfin ces histoires. Si vous lisez les histoires de Grimm, enfin dans l'original, ce sont aussi des histoires qui ont très souvent des fins tout à fait violentes. À partir de son séjour à Francfort, il passe du village, enfin de cet univers du village, au théâtre du monde, enfin pourrait-on dire, enfin il élargit, hein, enfin vraiment beaucoup sa perspective. Hein. Avec des satires politiques, hein, et religieuses, Antonius, hein, Philitius, et puis enfin des Fromme Hélène, hein, aussi que vous avez dans l'exposition. Une critique de la société qui ne plaît pas à tout le monde, et il est même pour la trilogie Knop, hein, il est même accusé de pornographie, hein, par certains, parce qu'il trouve qu'il raconte des histoires qui ne sont pas tout à fait convenables, hein. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles finalement il n'a pas eu sa médaille, il n'a pas eu son ordre du mérite. Il était comment dire, d'après ce qu'on sait de lui, bien entendu il était très heureux du succès, hein, enfin, notamment de Max und Moritz et puis d'autres BD. Il était un négociateur assez âpre avec les éditeurs. Enfin, il a toujours trouvé qu'il n'en faisait pas assez ou pas assez bien, ou il fallait faire plus de publicité, etc. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui lui a aussi pesé parce qu'on lui a demandé éternellement de faire la même chose. Enfin, c'était un tel succès qu'on lui a toujours demandé, enfin, de faire quelque chose un petit peu dans la même ligne, et il y avait un moment où il commençait à être aussi un petit peu agacé d'être toujours sollicité pour des BD très précises. Il trouvait que finalement il y en avait d'autres qui valaient aussi le coup. Et puis il a publié aussi de la poésie, ses autres tentatives, théâtre, poésie, etc., n'ont jamais connu le succès qu'ont connu ces BD, et notamment Max und Moritz, que vous aviez regardé en haut dans l'exposition.